j'espère que vous avez un petit peu de patience parce que c'est un message qui est un peu défiant. J'ai reçu le thème en juillet, donc j'espère que ça ne va pas trop cuit parce que ça mijote depuis 2 mois là. Donc ce sera juste à point. Et en fait, je l'ai reçu début juillet et j'ai entendu que Johan Rimaud avait fait un message sur la grâce et la vérité mi-juillet à peu près. Et je me suis dit, oh mince, moi qui voulais faire un message sur la grâce, j'espère que ça ne va pas faire maudite. Et évidemment, j'ai écouté son message, parce qu'on n'était pas là le 16 juillet, mais j'ai écouté sur les enregistrements. Merci à David pour tous les enregistrements. Est-ce que du coup... Et donc, il a parlé de la grâce et de la vérité, et c'était très intéressant la manière dont il a travaillé, mais je pense que je n'ai pas le même angle, et ça complète en fait, donc merci Seigneur. C'était pas juste une idée en l'air, et en fait, ça a vraiment dû mijoter, parce que j'ai vécu aussi des expériences particulières pendant ces 2 mois, je vous en parlerai de certaines. Et en fait, ce mot de grâce, il est tellement énorme, c'est tellement important, c'est tellement crucial comme thème que je viens un peu avec crainte et tremblement parce que je voudrais pas dire n'importe quoi. Donc, ayez de la grâce envers moi aussi, s'il vous plaît. Et puis, examinez, voilà, toute chose, hein, c'est ce que la parole nous dit, et gardez ce qui est bon. En tout cas, on est déjà depuis le début de ce culte dans la grâce du Seigneur. Je pense que vous avez senti la présence qui est forte, qui était en même temps douce et comme moi j'ai senti comme un doux manteau de la présence de Dieu et je le relie évidemment à ce que j'ai vécu en travaillant ce message, mais c'est comme un manteau de grâce qui nous enveloppe et qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, mais même encore plus parce que vous voyez que Chloé elle a exprimé un besoin. Agnès, je suis sûre que tu seras aussi vraiment pourvu, que tout sera pourvu pour toi. Et Chloé, elle a une petite demande, et puis vous voyez toute l'abondance de paroles qu'elle a reçues. Ben, ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est vraiment la puissance de la grâce de Dieu. Et on a chanté aussi, alors là aussi, hein, magnifique, mon encre et ma voile. On a chanté tout ce que le Seigneur est pour nous. Et ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Ta miséricorde, c'est la grâce aussi. On était vraiment dans son infaillible amour. C'était trop beau. Il y avait cette présence. C'était pas simplement un mot. C'était pas simplement une idée. Il y avait vraiment cette présence de l'amour de Dieu. Et donc, cette grâce qui est quelque chose de tellement énorme, la manifestation concrète de l'amour de Dieu pour nous. Évidemment, je ne vais pas vous faire tout Éphésiens, tout Romains, qui un petit peu quand même, mais qui explique ce que Dieu a fait pour nous alors que nous étions pécheurs. Jésus est venu, il est mort pour nous, et on pourrait très bien se contenter de ça en disant voilà, la grâce de Dieu, c'est le salut, et c'est déjà tellement énorme que ça pourrait nous suffire. C'est tellement au-delà de notre compréhension, tellement au-delà de notre propre fonctionnement humain où on doit mériter pour pouvoir acquérir quelque chose, là c'est un don gratuit. Et en fait, donc, le mot grâce en lui-même, il a plusieurs sens et on l'utilise dans plusieurs expressions françaises aussi. Et j'aime beaucoup d'ailleurs, dans le début d'Éphésiens, il y a déjà plusieurs sens du mot grâce. Il y a Paul qui parle aux Éphésiens, qui leur. On va pas toujours comprendre, mais simplement. Qui leur dit que la grâce et la paix vous soient données. Ensuite, qui dit la louange de la grâce, la richesse de la grâce. Il y a, dans cette lettre, il y a, je crois, 18 fois le mot grâce. La grâce de Dieu, évidemment, chapitre 2, c'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi, etc. etc. Et c'est une lettre qui explique cette grâce, qui manifeste cette grâce. Et j'aime beaucoup dans les expressions françaises que faire grâce, c'est-à-dire pardonner, soit si proche de rendre grâce, qui veut dire merci, remercier. Et parce que le pardon, la gratitude, c'est vraiment 2 piliers de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Dans le mot Eucharistie d'ailleurs, hein, ça vient de charis, qui veut dire grâce en grec. Petite minute étymologique, je ne peux pas m'en empêcher, je suis désolée. Et Ευχαριστώ en grec, ça veut dire merci. Et donc quand on remercie pour la nourriture, en fait, on a une eucharistie à chaque repas. Ça vient de là. Voilà. Et le sens donc du mot français, c'est la grâce, c'est une faveur qui est accordée librement. Ça, c'est le sens commun. Faveur accordée librement. Avec l'expression grâce présidentielle, on a aussi l'idée de la remise de peine. On était censé mourir et grâce au président, on meurt. Ou alors on est délivré de la prison. Voilà. Et en fait, la grâce de Dieu, c'est à la fois un cadeau immérité, hein, on sait tout ça, mais aussi une remise de peine. On était censé mourir à cause de l'influence du péché. Un cadeau, on ne peut pas le mériter, sinon ce serait un salaire. Éphésiens nous dit, hein. Non, c'est dans Romains, pardon. Paul nous dit dans Romains, au début du chapitre 4, que c'est pas un salaire, la grâce, c'est un don gratuit de Dieu. Et il insiste bien là-dessus, en disant que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu, et c'est lui qui remet la peine, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Donc lui, il nous donne la vie, c'est tout l'antidote, tout le contraire. Tout ça, on le sait. Des petits rappels, des petits basiques pour commencer une année scolaire. Comme dit, j'ai vraiment l'impression que c'est la rentrée, donc pour moi, c'est une parole pour cette année. Voilà, un petit peu le... Ouais, c'est pas mal quand même de mettre la grâce, l'année scolaire sous, sous le principe de la grâce de Dieu. Je trouve que c'est sympa. C'est une belle grâce. Et c'est pas Anne qui va me contredire, parce que son prénom veut dire grâce. Alors c'est tout ça, d'accord? La grâce de Dieu c'est tout ça, on connaît Romains par cœur, on connaît Éphésiens, Éphésiens résume bien, hein, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, Éphésiens 2, 8, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tout ça, on connaît par cœur. Mais il y a plus. Et je crois vraiment que le Seigneur il veut déverser plus aujourd'hui. En plus d'être un cadeau, d'être une remise de peine, ce que j'ai vu à travers ce que le Seigneur voulait me dire, c'était vraiment une puissance, une dynamisme. Dynamisme en grec, c'est une force agissante. C'est pas que la dynamite qui explose, même si c'est ça aussi, hein. C'est une force agissante. Et ce que je vois surtout, c'est une force transformatrice. On parle beaucoup de métamorphose en ce moment, hein, chez les intercesseurs, on est à fond là-dedans. On est en train d'être métamorphosés. En tant qu'église, on est en train d'être métamorphosés. Je pense que vous avez un peu remarqué qu'on a perdu tous nos repères ces derniers temps. Mais je crois que c'est le Seigneur qui le fait. Et donc, cette dynamite qui nous a un peu explosé la figure, on n'était pas préparé, elle nous transforme. Et il y a une puissance, en fait, de la grâce de Dieu. Et souvent, quand on parle de grâce, on a un peu dévalué le terme. On dit « je te fais grâce »,« ah, c'est une grâce ». Et dans le langage courant, on utilise ce mot, évidemment. Mais parfois, je pense qu'on a besoin de revenir à la nature même de ce que Dieu a donné, de ce que Dieu nous donne. Parce qu'on peut parfois oublier un peu sa vraie nature. Et je pense que c'est ça en fait que le Seigneur voudrait nous enseigner aujourd'hui. Alors je prie, Seigneur, c'est toi qui parles à travers ma bouche, c'est pas juste mes propres idées. Mais je pense que c'est pas seulement des mots, mais c'est aussi une puissance spirituelle qui veut déverser sur nous aujourd'hui pour que nous puissions faire tout ce que nous sommes appelés à faire pendant cette année. Voilà mon introduction. Donc, pour qui? Pour qui cette force transformatrice, pour qui cette dynamique rédemptive, c'est la nature même de Dieu, c'est qu'il apporte la rédemption et sa grâce, c'est ça, c'est une œuvre de rachat, c'est une œuvre de rédemption et donc de transformation. Alors d'abord pour nous, évidemment, on reçoit, nous qui sommes les enfants de Dieu, fils et filles, co-héritiers, nous recevons les promesses, nous recevons la grâce transformatrice, nous sommes transformés, nous sommes complètement revivifié, restauré par son esprit pour pouvoir ensuite aller donner. Donc pour nous qui sommes son église, petit rappel, message de Vito il y a quelques mois, l'église c'est une idée de Dieu, c'est pas notre idée, l'église avec un grand E, n'est-ce pas? Elle est née du côté parfait de Jésus, c'est l'épouse de Christ, son corps c'est lui qui bâtit son église, hein, c'est lui qui la bâtit, c'est lui qui la purifie, qui la sanctifie. Je ne vais pas vous refaire Éphésiens 5, 25. Hein, Christ et l'Église, il s'est livré pour elle, sanctifié. Elle est sanctifiée par lui, elle est purifiée, pour qu'elle soit glorieuse, sans tache, ni ride, sainte, irrépréhensible. C'est son corps, il la nourrit, il en prend soin. Petit pasteur lui. Et bien sûr, je parle aussi de l'Église avec un grand E, comme l'homme nouveau. On avait vu ça aussi cette année, hein, le Seigneur nous a beaucoup parlé des racines hébraïques. Pourquoi ? Parce que c'est l'homme nouveau. Encore quelques petites considérations théologiques, mais il me semble que c'est une base sur laquelle Dieu a bâti notre communauté, et c'est la racine d'Abraham, hein, juif, non-juif, réconcilié en Jésus, et un seul arbre. Et ça, on voit dans Romains 11, 17 à 24, je laisserai reprendre toutes ces considérations théologiques pour vous. Si vous avez besoin, je vous renvoie aussi au message précédent sur Abraham, sur la postérité d'Abraham, et tout ce que le Saint-Esprit nous a enseigné tout au long de l'année. J'étais moi-même étonnée de devoir prêcher là-dessus, je n'avais pas du tout l'intention de le faire, et c'est le Seigneur qui vraiment a posé des jalons. Et je pense que c'est une parole aussi pour plus tard, parce qu'on a une mission pour les Juifs, pour leur annoncer leur Seigneur, leur Sauveur, pour leur expliquer qui il est. Mais ça, c'est encore tout un autre message. Et nous, donc, son Église, pourquoi avons-nous besoin de sa grâce ? Ça veut dire on a le salut, on est sauvé, c'est notre base, notre roc. Cela devrait nous suffire, mais non. Heureusement, le Saint-Esprit nous accompagne tous les jours pour qu'on puisse faire tout ce qu'on doit faire avec sa grâce, parce que sinon, c'est quoi ?
Nos propres forces.
Sinon, c'est nous-mêmes qui voulons nous justifier nous-mêmes. C'est bien d'être sur le socle du pardon, de la grâce de Dieu, du salut, évidemment. On ne rejette pas ça du tout, c'est notre base. Mais si on veut continuer après en disant « Ok, je suis sauvé, donc je dois faire ça parce que je suis chrétien, donc je dois faire ça, 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 ça », on commence en fait, à rentrer dans les propres forces. Et il y en a avant nous qui l'ont fait, n'est-ce pas ? Vous connaissez les lettres de Paul pour reprendre un certain nombre d'églises qui ont commencé par l'esprit et qui ont fini par la chair. Donc, en fait, c'est très simple, très facile de tomber là-dedans. Il y en a d'autres qui l'ont fait. On n'est pas mieux, on n'est pas plus intelligent. Donc, je pense que c'est ce que le Seigneur veut nous rappeler aussi ce matin. C'est tellement facile, en fait, de commencer par l'esprit et de tomber ensuite, essayer de faire par la chair, par les propres forces. Parce que on sait que Jésus a tout payé, mais on veut quand même payer un peu aussi. En disant, oui, bon, je vais t'aider un peu, quoi. Et c'est très difficile de ne rien faire et juste d'accepter. Je vois que ça va. De laisser quelqu'un payer à notre place. Et encore plus quand on est responsable sur nous. Petite anecdote, cet été, j'ai fait une petite erreur de commande. J'ai commandé un chargeur pour ma fille et ce n'était pas le bon modèle. J'ai pas fait attention, je n'ai pas regardé correctement. Et donc, j'ai essayé de réparer mon erreur, mais c'était bien plus complexe que ce que j'avais imaginé au départ. Moi, je pensais juste qu'il fallait faire un petit échange, comme on fait dans la vente par correspondance, mais là, c'était pas aussi simple. Et du coup, la personne, c'était pas le bon, quoi. Donc, déjà, j'ai dû payer le renvoi à mes propres frais, j'étais là, ah bon, c'est comme ça que ça se fait, j'étais choquée de devoir payer. Donc, non seulement les choses qu'on devrait payer, on ne veut pas les payer, mais après, la personne qui m'a vendu ce chargeur, elle a dû faire des kilomètres parce qu'ils se sont trompés dans la boîte de colis. Enfin bref, c'était une histoire à dormir debout. Je me dis, Seigneur, mais comment ça se fait que pour un petit chargeur comme ça, un truc qui vaut pas grand-chose, moins de 30 euros, pourquoi c'est aussi impressionnant de devoir régler cette erreur? Et c'était une vraie erreur de ma part. Alors, déjà, je n'ai même pas me tromper. Voilà. J'étais crucifiée là. En plus, la personne qui me l'a vendu, elle était bien gentille. Bon, on sentait qu'à la fin, elle commençait à s'énerver parce que bon, voilà, c'était une misère de devoir récupérer ce truc. Et j'ai dit, mais bon, elle a fait tout ça. Elle m'a dit, ok, c'est bon, je vous ai remboursé. J'ai dit, merci beaucoup pour tous les efforts que vous avez faits. Je suis vraiment désolée. Et puis, bah, je pouvais rien faire d'autre que dire merci et je suis désolée, quoi. Pardon, la gratitude, comme on le disait tout à l'heure. Mais c'était horrible. J'ai souffert. Et je me dis, mais pourtant c'est si simple. cette personne a pris sur elle, c'était vraiment, c'était arrivé. Mais dans ma tête, c'était, ok, je veux prendre cette responsabilité, je veux payer. D'une certaine manière, je me suis trompée, c'est moi qui dois endosser cette responsabilité. Et en fait, non. J'avais juste besoin de dire, excusez-moi et pardon, et merci. Mais ça m'a parlé d'une certaine manière en disant, non, on veut faire pareil avec Jésus. On a juste besoin de lui dire pardon quand on se trompe, quand on fait n'importe quoi, quand on dévie d'une manière ou d'une autre de sa grâce. On a juste besoin de lui dire pardon, je me suis trompée, j'ai fait n'importe quoi, et merci. Merci pour ta grâce. Et c'est difficile. Pour un petit truc comme ça, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est difficile. Je vous laisse méditer. Peut-être que ça peut vous parler pour votre propre vie. Mais c'est drôle parce qu'au départ, j'étais choquée de devoir payer et puis après, j'étais choquée de ne pas réussir à juste dire pardon et merci. Donc bon. On ne peut pas se sauver soi-même. On ne peut pas se justifier soi-même. Ça, c'est pas possible. On le sait. On le sait. On a un peu suivi les enseignements sur la grâce, sur la justice. Mais on essaye quand même, inconsciemment, d'une certaine manière. On se dit, je suis gentille, je suis serviable, je fais tout ce qu'il faut, je suis une bonne chrétienne, je vais à l'église le dimanche, je ne suis pas trop horrible avec mes enfants, je suis gentille avec mon mari. Donc voilà, il y a le petit truc qui tourne hein, en permanence hein, dans la tête. Je mérite que Dieu fasse attention à moi, je mérite que les autres m'aiment, je suis bien quoi, je suis sympa, tout va bien. Mais attention parce que là, on glisse dans l'auto-justification et vers les propres forces. Et finalement, on glisse loin de la grâce de Dieu, puisqu'en fait, tout est grâce. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, ça vient de Dieu. Tout est grâce. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et on ne peut que s'en sortir si on accepte cette grâce en disant merci, en remerciant Dieu. Les enfants ont un petit programme. Merci. Alors, on va relire Romains 3. Romains 3 à partir du chapitre 9. Solide à tout ça. Donc, Romains 3, chapitre 9, si vous avez vos bibles. Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, et n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est un peu démoralisant, mais c'est la vérité. Je vous passe tout le verset suivant. Or, verset 19. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc ça, c'est la base. On est tous coupables, quoi que nous ayons fait, si nous sommes gentils ou serviables, peu importe. Hein. On est tous sur le même pied d'égalité. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus a fait. Et c'est vrai, on le sait. On sait que Jésus nous a justifiés, nous a graciés. Mais je crois que Dieu veut nous rappeler que cette grâce, elle est présente tous les jours. C'est une force agissante, une puissance spirituelle qui est présente tout à nouveau, tous les jours, qui est là. Et elle marche à côté de nous, elle marche avec nous, elle est avec nous. Et c'est pas juste parce qu'on est gentil. C'est parce que c'est un don gratuit de Dieu. En fait, c'est sa nature. S'il n'était pas comme ça, le monde ne serait pas comme ça. Et on a besoin de se rappeler que c'est, tout est grâce, que tout vient de lui, que la grâce, elle nous accompagne, et c'est par sa grâce qu'on peut faire tout ce qu'on fait. Et encore plus, les signes, les miracles, les prodiges, on les attend. Mais je pense que c'est ça, on peut les attendre seulement si on est fixé sur cette grâce. Et j'ai déjà entendu plusieurs messages qui disaient « Dieu ne partage pas sa gloire ». Et si on veut récupérer d'une certaine manière sa gloire parce qu'il y a des grands miracles dans notre église, etc., ben on va tout gâcher. Donc je pense qu'il parlait aussi beaucoup de purification, etc. Purification des motivations, purification de notre motivation personnelle et collective. Et je pense que c'est important parce que sinon la suite ne viendra pas. Merci. Et alors Paul, il développe aussi l'idée de la circoncision, etc. À quoi sert la circoncision? Est-ce que les Juifs sont les préférés de Dieu? Est-ce qu'eux, ils sont plus sauvés que nous, etc. Et on pourrait se dire, et c'est certainement pour ça que Paul explique, que non, les Juifs ne sont pas plus sauvés que nous. Ils ont tout aussi besoin de grâce que nous, autant besoin de grâce que nous. Ils ne sont pas plus sauvés ou plus facilement sauvés parce qu'ils obéissent à la loi. Donc il fait bien cette distinction dans tout Romain, le début de Romain, c'est vraiment... Ça, c'est la loi, la grâce, et la loi ne permet pas d'accomplir la grâce de Dieu ou de manifester la grâce de Dieu, c'est que la foi. Et donc la justification par la foi. Donc ça aussi, c'est une chose qu'on sait, c'est des rappels, il n'y a vraiment rien de nouveau, mais c'est une base sur laquelle on s'appuie pour aller plus loin. Paul parle de la circoncision du cœur en Romains 2, 29. Donc, le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Donc, on ne vous demande pas de vous circoncire. Bonne nouvelle. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre. Et la circoncision du cœur... alors, j'ai demandé à mon cher... théologien de Marie, est-ce que ça voulait dire? Parce que pour moi, c'était pas très clair. Mais c'est une marque de la présence de Dieu dans notre vie. De la présence de Dieu dans notre cœur. Et comme il y a une circoncision pour être une marque de l'alliance chez les Juifs, chez tous ceux qui ont rencontré Jésus, que ce soit des Juifs messianiques ou des chrétiens, il y a une marque dans le cœur de la présence de Dieu, de cette alliance avec Dieu. Et justement, c'est par cette grâce que l'on peut donc agir. Et cette circoncision du cœur, elle est évidemment en opposition avec la chair, il faut trancher la chair, évidemment, et c'est par l'esprit. Il y a une dépendance profonde avec Dieu qui se forme au fur et à mesure de la marche avec Dieu. Donc, on a besoin de sa grâce, et Dieu a dû faire beaucoup grâce à son peuple. Hein. On connaît l'histoire d'Israël, ils se sont détournés, ils sont revenus. Je relisais récemment Esdras et Néhémie, c'est le retour après l'exil de Babylone, et il y a des vrais parallèles avec l'Exode. Un retour au commandement, une radicalité pour tout remettre en ordre, etc. La repentance qui va loin hein, dans le contexte pratique de l'époque, par exemple avec Esdras et Néhémie, ils ont dû répudier les femmes étrangères. Les choses qui étaient avant, c'était pour les responsables, ça concernait tout le peuple, mais c'est les responsables qui ont pris les choses en main. Imaginez concrètement ce que ça devait faire dans les familles. Donc il y a cette radicalité là qui est quand même assez dingue. Mais en même temps, ça montre qu'un retour à lui est toujours possible. Il y a cette grâce agissante de Dieu qui permet de tout recommencer à chaque fois. Donc s'il peut le faire pour son peuple, il le fait aussi pour nous, heureusement. Alléluia. Et c'est vrai que si on fait une relecture de l'histoire de l'Église, ça peut peur. Hein. Tout ce qu'on a fait de travers en tant qu'Église de France, heureusement qu'il y a la grâce de Dieu. Et heureusement aussi qu'il y a toujours un reste qui cherche en fait à obéir au Seigneur. D'ailleurs, c'est sur cette puissance de grâce que les intercesseurs et les sacrificateurs se fondent pour aller intercéder, pour demander grâce justement. Et c'est une puissance de restauration, et on a plein de choses à raconter avec le groupe d'intercession. de ce point de vue-là, le Seigneur il fait des choses extraordinaires, hein, ce renouveau, cette restauration complète qui peut intervenir parce qu'on demande grâce. Et en fait, donc le principe, c'est que quand on l'a vécu pour nous, on peut l'amener plus loin. Donc, deuxième partie, pour ceux qui sont autour de nous. Et ça peut être nos enfants, bien sûr, ça peut être nos amis, ça peut être ceux qui étaient là et qui sont partis. Et c'est un thème un peu douloureux de voir qu'il y a des personnes qui faisaient partie de cette communauté et qui ne sont plus là. Et en juillet, j'avais une présidence axée sur le psaume 95 et on a prié ce psaume, on l'a prié à l'envers pour que Dieu nous fasse grâce justement. Et à partir du verset 8, on avait prié que on n'endurcisse pas nos cœurs. Vous vous souvenez ? Que Dieu nous fasse grâce et qu'il ne nous rejette pas. Mais il y a certainement des gens qui ont endurci leur cœur. Avec tout ce qu'on a vécu, c'était compliqué, c'était difficile parfois de s'y retrouver. Et nous-mêmes, hein, on a eu du mal à un moment donné, on a dû vraiment chercher la volonté de Dieu pour savoir ce qui se passait dans cette église. Et on peut comprendre, on a la compréhension pour ceux qui sont partis et qui étaient dans la confusion, qui ne savaient plus. Qui ne savaient plus si c'était juste, qui ne savaient plus s'ils avaient encore leur place ici. Et donc, il y a aussi la grâce pour eux. Je me rappelle de Benjamin qui avait apporté une parole en disant que certains vont revenir et qu'il faudra beaucoup de grâce. Et je crois vraiment aujourd'hui, avec ce message que le Seigneur nous rappelle, il va falloir avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de grâce. Pourquoi ? Parce que certains se sont égarés, ont endurci leur cœur. Il y a des brebis qui faisaient partie du troupeau qui se sont égarés dans la nature. Et on sait ce que Jésus fait avec les brebis. Il les ramène, il va les chercher. Et il y a une puissance rédemptrice pour ces brebis-là, pour que la cicatrisation se fasse. Alors, j'ai une petite histoire de cicatrisation à vous raconter. je me suis blessée début juillet en voulant couper du pain. Et c'était net, hein, c'était tranchant. Donc, la circoncision du cœur, ça me parle. et du coup, je me suis dit, bon, ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce petit incident? Et en fait, l'anecdote, elle était vraiment très concrète parce que j'ai vu concrètement le processus de cicatrisation. Donc, avant de pouvoir cicatriser les blessures du passé, il faut d'abord nettoyer. Et quand on va à SOS-Main, il nettoie en profondeur. Hein. Heureusement, on est bien anesthésié, hein, parce que je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais enfin, voilà. Nettoyage, la désinfection, on vérifie si en dessous, il n'y a rien qui a été coupé aussi, si tous les nerfs, les tendons sont bien intacts. Donc, d'un point de vue spirituel, aller chercher jusqu'au bout pour pas laisser les choses s'infecter en dessous ou des choses qui ne sont plus qui sont en fait touchées et qui ne vont plus fonctionner par la suite si on recoud sans qu'on ait tout recousu. Donc première étape, nettoyer, désinfecter. Deuxième étape, vérifier que tout est en ordre. Troisième étape, recoudre. Quatrième étape, après c'est tout le processus de cicatrisation parce que il faut bien mettre un pansement, que ce soit bien protégé. Enlever le pansement, nettoyer, remettre un pansement, enlever le pansement, tous les deux jours. Voilà. Et ensuite, la phase de... Comment je pourrais dire? On enlève les fils et puis on voit ce que ça a donné. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça a bien pris? Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est bien bord à bord? Oui, ça doit te parler, hein, Chloé. Donc, c'est toute cette étape-là. Et je suis assez satisfaite de ma cicatrice. Bon, elle se voit encore, évidemment, parce que ça prend un an hein, jusqu'à ce qu'elle devienne blanche. Mais au début, j'avais un peu peur, hein, parce qu'elle n'était pas belle à voir. Et je me suis dit, bon, j'espère que ça va bien, bien se coller. Et puis, en fait, on m'a dit de bien masser la cicatrice dès que les fils sont enlevés. Alors, au début, ça fait mal. Mais c'est important de redonner de la souplesse. Et puis d'éviter aussi les adhérences en dessous, parce que quand ça se reconstruit, il peut y avoir des adhérences avec le but, la lumière, enfin voilà. Bon, et bien toutes ces étapes-là, ça m'a vachement parlé pour la grâce dont on aura besoin pour la cicatrisation. Et donc, d'un point de vue spirituel, il y a toutes ces étapes, en fait. Il y a plusieurs étapes pour accueillir les personnes qui ont pu être blessées, volontairement ou involontairement, évidemment. Hein, c'est, je veux dire, on ne blesse pas volontairement. Mais heureusement, on a cette puissance de grâce qui restaure. Et tout ce processus-là, il y a un processus, il y a des étapes, mais si on demande la grâce de Dieu, il est possible. Et peut-être qu'il restera une petite marque, peut-être. Et encore, c'est pas sûr, parce que Dieu est capable de tout remettre à nouveau, hein, à neuf. Mais c'est possible, même si ça a été coupé, même si ça a été déchiré, il y a cette possibilité de retour, de réparation, de guérison. Et j'ai vraiment reçu que ce temps de message, ce serait aussi un temps de proclamation pour cette grâce. De proclamer la grâce, qu'ils sont de nouveau, ils font partie de nous de nouveau, que la cicatrisation va arriver et qu'on ne verra plus la cicatrice. Parce que nous sommes des instruments de justice, et que la grâce règne par la justice. Alors ça, j'ai trouvé ça magnifique aussi. Dans Romains 5, 20, Paul nous dit que la grâce règne par la justice. On va le lire rapidement. Et j'en arrive à la dernière partie de mon message. La loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice. Ça m'a vraiment frappé. Pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce règne par la justice. Il y a vraiment cette association des deux. Et nous sommes des instruments de justice, donc nous sommes des instruments de grâce. Pour qui ? Donc pour ceux qui sont proches, mais aussi pour ceux qui sont au loin. Comme la parole de Actes 2, verset 39, hein, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc on peut lui faire confiance, il va les appeler. Et le nombre, c'est lui qui le donne. C'est lui qui le fait. Et donc on connaît bien sûr... le sacrifice de Jésus, ben, c'est pour le monde entier. Hein. Je cite notre pasteur préféré, le cosmos, le monde, c'est le cosmos. C'est lui qui dit ça. Hein. Il est... Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le cosmos, l'univers entier. Et donc, les individus font partie de ce cosmos. Mais en fait, la puissance de la grâce, elle est pour la création tout entière. Et ceux qui sont loin, ils peuvent être très, 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 très loin. Je ne parle pas de la génération dont on a du mal à comprendre, qui vient juste après nous, mais ils peuvent être très loin. Alors, dans le sens géographique, bien sûr, mais dans le sens aussi des valeurs, décalage culturel, décalage d'intérêt, de génération, etc. Je vous renvoie au message de Johan qui disait oui, souvent on critique ceux qui ne sont pas comme nous. C'est clair, hein. On a déjà du mal à s'aimer entre nous quand on est à peu près pareil, mais alors quand ça. Voilà, c'est vraiment un défi. Donc, on a besoin de la grâce de Dieu pour ça. On a besoin, en fait, que la puissance de la grâce de Dieu nous aide au niveau de notre compréhension et notre acceptation, notre amour pour les autres. Et ça, c'est vraiment pas les propres forces, clairement. C'est pas les propres forces. Et en même temps, est-ce qu'on veut que les autres restent sous l'influence du péché ? Donc Romains 6 nous dit bien que le péché est une puissance, il a une influence sur nous. On va peut-être pas tout relire, mais on peut relire la fin, verset 14 du chapitre 6, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Donc le but, c'est que le péché n'ait plus aucune influence sur nous. Et quand il n'en a plus sur nous, on peut aussi être des instruments de justice, de libération pour les autres. Et ça, c'est pas la grâce à mon marché. C'est pas, oh oui, je t'aime bien parce que bon, je suis chrétien et que je veux t'accueillir dans mon église. Là, ça va pas aller très loin, quoi. Le but, c'est pas juste d'accueillir et de dire fais tout ce que tu veux. Hein. Ça, c'est la grâce à bon marché, c'est la grâce voilà, qui a été dévaluée dans le vocabulaire individuel. Mais la grâce, selon Dieu, c'est un. Alors, bien sûr, c'est sacrificiel, dans le sens c'est l'amour qui se donne. Ça va coûter un peu d'effort, mais par le Saint-Esprit, pas par nos efforts à nous. C'est simplement aligner notre volonté avec celle de Dieu et le laisser faire à travers nous. Et dire, alors Yoann parlait de grâce et vérité, mais oui, la vérité, c'est pas notre vérité. C'est pas la vérité selon ce que moi je pense, c'est la vérité de Dieu. Et quand la femme pécheresse, elle va vers Dieu, elle va vers Jésus, et que Jésus dit « Je ne te condamne pas », bien sûr c'est déjà la grâce, mais « Va et ne pêche plus », c'est encore la grâce. Va et ne pêche plus, ça veut dire que grâce à, ce que je, à la parole que je t'ai donnée, tu peux aller et ne plus pécher et recommencer à zéro et avoir une vie nouvelle. C'est encore la grâce en fait. Et en fait, pour finir, je ne veux pas faire trop long, mais le personnage de Ruth m'a beaucoup parlé. Surtout de Boaz, parce que c'est vraiment l'image de rachat, de grâce. Ruth, elle n'était pas censée appartenir au peuple de Dieu. Elle était moabite et les Israélites n'avaient pas le droit de se marier avec des femmes étrangères. On le voit dans Esdras et dans le livre de Néhémie. Il y avait vraiment cette séparation avec les peuples autour pour que justement il n'y ait pas d'interférence avec. Avec le peuple d'Israël, avec les lois, avec l'adoration qui était due à Dieu et qui ne pouvait pas se partager avec les autres dieux. Et donc, Boaz, il avait droit de rachat donc, sur Ruth et en fait sur Naomi, puisque c'était la femme d'un Israélite et donc de sa famille, etc. Et donc il avait le droit de racheter ses possessions et notamment donc droit de rachat sur Ruth. Et alors je ne vais pas faire trop long, mais c'est comme si il avait exprimé doublement une grâce. Donc il a sauvé Naomi, qui était dépendante de Ruth pour sa subsistance, parce qu'elle était déjà âgée, et il a sauvé Ruth, qui n'était pas censée être là. Qui était déjà, en fait, une erreur, entre guillemets, puisque bon, son mari avait fui la famille, mais s'était installé dans le pays de Moab pendant 10 ans, etc. Il n'était pas revenu en Israël. Et c'est Naomi qui est revenue en Israël. Et elle a suivi Naomi, elle a vu la puissance de Dieu, hein, parce qu'elle avait entendu parler de ce que Dieu avait fait en Israël. Elle a vu l'amour de Dieu à travers Naomi, elle s'est attachée à elle, c'est comme nous en tant que nouveaux convertis, on s'attache à l'amour que l'on voit en Dieu, en Jésus, à travers les frères et les sœurs, mais elle n'avait pas encore rencontré son sauveur. Quand elle a rencontré Boaz, elle a eu donc, elle a eu accès à ses champs, elle a pu glaner, elle a eu plus que ce qu'elle aurait pu avoir. Donc ça parle d'abondance, de surabondance, de générosité. Et elle trouve, alors on dit dans le chapitre 2, elle trouve grâce aux yeux de Boaz. Et c'est comme, d'une certaine manière, comme s'il avait racheté la faute du premier mari, parce qu'il va l'épouser. Il sauve, bien sûr, Ruth, mais il sauve aussi la vie. Et puis, on voit à la fin du chapitre 4 que... En plus, il va avoir un enfant, et qui va être descendant, ça va être ce sont les arrière-grands-parents de David, dans la généalogie de Jésus. Donc ça montre que là, la grâce, elle est très concrète hein, pour Naomi, elle est très concrète pour Ruth, et elle est inscrite dans la généalogie de Jésus. Alors que pas censée être là. Ruth était une erreur, entre guillemets, une faute même. Et elle a été doublement rachetée. Et voilà, c'est un exemple qui Mais voilà, ce sont des exemples qui nous montrent l'exigence en fait de ce que Jésus peut apporter, de ce que Dieu apporte par sa grâce, mais qu'on ne peut atteindre que par le Saint-Esprit. Et c'est une attitude simplement de cœur, de dire ok, on reste ouvert à cette grâce qui vient du Saint-Esprit et qui coule et qui nous donne la force. Et cet amour de Dieu, il est puissant, il est agissant en fait. Et il va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il va bien au-delà de ce que même on peut prier. Et on est souvent, en tant qu'intercesseur, on est souvent surpris de sentir la différence. Quand on a demandé pardon, quand on a fait cet acte de repentance, on sent dans l'esprit la différence. Parce qu'il y a une puissance agissante de la grâce de Dieu qui est intervenue. C'est extraordinaire. Et donc voilà, je voulais finir là-dessus. On peut prier que justement, on renonce encore à nos propres forces. À nos propres forces en tant qu'individu, à nos propres forces en tant que communauté. Et on accueille ta grâce, Seigneur. On accueille cette puissance rédemptrice, cette puissance restauratrice qui restaure tout à nouveau, qui redonne une nouvelle place à ceux qui n'étaient plus là, qui refait tout à nouveau ce processus de cicatrisation pour qu'il soit solide, que la cicatrice ne se voit même plus. Et on veut déclarer que c'est un temps nouveau pour cette communauté. Tu nous fais repartir sur de bonnes bases et merci Seigneur pour ce lieu qu'on bénit encore. Et que ta grâce coule en ce lieu, que ta grâce coule, ta puissance de grâce, qu'elle coule ici, qu'elle coule en nous, qu'elle coule à travers toute la communauté. Parce que ça nous fait du bien sûr à nous, mais c'est pour le monde, pour ceux qui sont proches, mais aussi pour ceux qui sont loin. Et on ne veut pas le faire avec nos propres forces, on relance encore. Parce que ce n'est pas ça qui va donner du fruit. Mais on sait que tout est grâce, tout vient de toi. Tout vient de toi. Alors, merci Seigneur. Au nom de Jésus.